voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre José Dayan. Ce soir, Depardieu, Dumas, Dayan, le choc des géants.
Bonsoir José Dayan.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode des voix nues.
Bah moi aussi.
On va parler de ce grand épisode qui finalement a changé votre vie, vous le dites.
Parler de Monte Cristo ?
Eh oui.
Bah ça a changé ma vie totalement. Affectivement et professionnellement.
On est en 98 au moment où ça sort, mais quand vous commencez à prendre langue avec Gérard Depardieu, c'est après donc la diffusion de cette très belle série que j'ai découvert, La Rivière Espérance.
Quand La Rivière Espérance a été diffusée, le premier soir de la diffusion du premier épisode, je reçois un coup de téléphone dès que le générique de fin se termine et j'entends la voix de Gérard Depardieu qui me dit « c'est top, on va travailler ensemble, on va faire Monte Cristo ensemble ». Ça a commencé comme ça et c'était une rencontre incroyable artistiquement et humainement. Voilà, Gérard, il a changé ma vie affectivement encore une fois parce que je l'aime et que j'aime sa famille, que j'aime Elisabeth finalement à qui je dois tout. Et puis Julie, bien sûr, à qui je vais faire son premier film. Et puis Guillaume qui était comme mon frère, quoi. Voilà, donc trop sensible et trop fragile pour le monde dans lequel on vit. Et où je pense qu'il faut quand même, allez, on va dire une armure pour être un petit peu dans Diane de Poitiers.
Pour revenir à ce tournant Rivière Espérance, Monte Cristo, Rivière Espérance, c'est déjà un gros morceau.
Énorme.
En termes de sous, de production, à ce moment-là, déjà, José Dayan, vous avez de gros moyens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la télévision française aussi? Parce que là, on a évoqué votre tout premier film, vous ouvrez la troisième chaîne.
Je ne sais pas, il se passe quelque chose au niveau de la Rivière Espérance qui est aussi de l'ordre du destin. Je reçois un an avant La Rivière Espérance un coup de téléphone de Christian Charret qui dirigeait Gaumont Télévision et qui me demande de reprendre un épisode d'une série dont il n'avait tourné qu'un seul épisode. Et finalement, la chaîne avait décidé d'en faire un deuxième, un an après. Et il me demande de réaliser cet épisode en me disant, évidemment, c'est avec les acteurs qui étaient dans le premier épisode. Alors, chose que moi, je n'accepte jamais, parce que je considère que le premier acte d'un metteur en scène, c'est le casting. Mais là, comme j'aime tourner, que j'avais une petite vacuité, je dis ok. Et je fais cet épisode le mieux que je peux, avec des acteurs qui n'étaient pas choisis par moi. Et puis, tout de suite après, Gaumont a la commande, eux, de La Rivière Espérance, pas moi. Et Charret m'appelle avec Jacques Salle, et comme ça s'était bien passé, et que j'avais accepté une distribution faite par eux, il me propose de faire La Rivière Espérance. Au départ, La Rivière Espérance, c'était 6 épisodes. Donc, je commence à préparer La Rivière Espérance et je fais mon casting.
C'est ça. Alors, attendez, petite nuance. Tous les réalisateurs ont un rôle déterminant dans leur casting, mais vous, j'ai l'impression que vous faites votre casting vous-même, parfois en vous passant des services d'un directeur de casting, c'est vrai ?
Non, mais je peux avoir un directeur de casting. Je fais mon casting en décidant les acteurs avec lesquels je tourne. Et si la chaîne n'en veut pas, je ne tourne pas. Si on me prend comme metteur en scène, on sait très bien que c'est moi qui ferai le casting. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait La Rivière Espérance, que j'ai connu Elisabeth Depardieu et qu'après je suis arrivé à cette rencontre avec Gérard. Voilà.
La Rivière Espérance, c'est ce long fresque 19e siècle.
Alors, La Rivière Espérance était une fresque de 6 épisodes. Et puis, encore une fois, Christian Charret, sans m'en parler, décide de montrer des rushs à des journalistes qui sont emballés. Et ils sont tellement emballés qu'on est en train de tourner à Carénac pendant 3 mois jusqu'à fin décembre. Et que là, il me dit, je viens d'obtenir une commande, une rallonge de 3 épisodes. Et donc, il y a des épisodes qui se passent à Carénac. Je dis, attends, après nous, on a un plan de travail sur les plans à Paris, etc. Il dit, alors il va falloir entrer dans le temps de Carénac, les épisodes supplémentaires, dans le temps de Paris, les épisodes supplémentaires. Ce que j'adore faire. J'adore faire les plans de travail, donc voilà. En fait, on a tourné 9 films en temps de 6, quoi.
Et après ça, donc ça c'est déjà un beau succès public.
Ah, énorme, oui. C'est-à-dire on a commencé à 22%, ce qui était la base, on a fini à 36%. Énorme.
Et là, Gérard Depardieu appelle. Alors, Gérard Depardieu, à ce moment-là, est déjà Gérard Depardieu.
Plus que Gérard Depardieu, c'est-à-dire que c'est
le top acteur français.
Il est mondial. Il est l'acteur français le plus célèbre dans le monde.
Ça, Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça permet, je vais même demander, industriellement parlant?
Ça permet de monter Monte Cristo très vite. Voilà, tout le monde le voulait. Et alors, à ce moment-là, on a une réunion, je me souviens, à Cannes, avec le producteur qui était Jean-Pierre Guérin. D'ailleurs, c'est moi qui ai amené Depardieu à Guérin. À ce moment-là, Guérin voulait que ce soit Daniel Thompson qui fasse l'adaptation. Elle n'était pas libre. Je propose Didier Decoin, c'est Decoin qui fait l'adaptation. Et donc, je me mets en charge complètement du projet Monte Cristo.
D'où vient le sujet de Monte Cristo? Qui voulait le faire?
Gérard. C'est Gérard Depardieu qui voulait le faire.
On va parler quand même de ce rapport à la littérature. Vous l'aviez lu?
Mais bien sûr.
Alexandre Dumas. Il existait déjà des versions dites de référence, dont une que probablement vous avez dû voir quand vous étiez petit, celui avec Louis Jourdan.
Il était très mauvais.
Voilà. Comment est-ce qu'on s'attaque? Ça va être la première...
On regarde plus les versions.
Vous regardez plus les versions?
Non, pas du tout.
Vous faites, dans Monte Cristo et d'ailleurs dans Les Misérables, un travail d'adaptation avec Didier Decoin.
Oui.
Qui fait des choix. Comment est-ce qu'on s'attaque à l'adaptation? Vous, à quel moment vous êtes présente? Parce que vous réalisez...
Moi, je suis présente au départ quand j'explique comment jouer le film. Après, il écrit. C'est lui qui écrit, c'est pas moi. Il a en plus un sens incroyable des dialogues. Il fait des dialogues extraordinaires. La chaîne qui dit oui, mais on préférait qu'il y ait un personnage ajouté. Par exemple, le personnage de Camilla Richardet, c'est un personnage qui n'était pas dans le roman. La fin n'est pas la même parce que TF1 voulait une fin plus optimiste que la fin du départ de Monte Cristo au désert. Voilà, on travaille, quoi.
Oui, ça, c'était la chaîne qui voulait une fin plus optimiste. Il y a deux changements majeurs sur Monte Cristo. Mercedes il termine avec son amour d'enfance, Mercedes.
Voilà.
Ouais, alors que dans le roman, très 19e, il termine avec Haïdée de Janina, je crois que
voilà.
Il épouse une jeune femme qui a la moitié de son âge. Pourquoi ces changements-là? Ça, qui les veut?
Je crois qu'à l'époque, TF1 souhaitait une fin plus optimiste. Voilà. Oui, je le pense. Mais c'était pas mal. C'était beau, la fin avec Mercedes. On est la Mouti.
Sur la plage.
Marseille. À Marseille.
Quand vous commencez à travailler là-dessus, qu'est-ce qui se passe alors?
Je vois comme il est. J'ai une vision du film global, des décors, de l'ambiance, de la lumière, du casting autour.
Elle vient quand, cette vision?
Très vite.
Très vite quand? C'est-à-dire quand vous avez le scénario ou avant?
Avant. On fait les repérages, on choisit les décors, tout ça.
Les repérages, ça vous dites que... Alors, vous tournez beaucoup. Aujourd'hui, vous le faites encore avec Marlowe. Vous tournez pas mal en extérieur. Monte Cristo, il y a beaucoup de scènes extérieures. Mais j'imagine qu'il y a des scènes de studio aussi.
Non, Monte Cristo, non.
Dans Les Misérables.
Les Misérables, oui. Et surtout, Les Rois Maudits. On a fait pratiquement en studio, oui. Mais ça, c'était nécessaire parce que je voulais que ça ressemble un peu à une héroïque fantaisie. Je voulais que ce soit Druyer qui crée le concept des décors. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait très, très plaisir, c'est que j'ai vu dans Variety un article des créateurs de Game of Thrones qui se sont inspirés de l'imagerie qu'il y avait dans Mes Rois Maudits. Oui, ça m'a beaucoup touché, ça.
C'est déjà une super production. Il y a plusieurs pays.
Oui, il y a l'Allemagne et l'Italie.
Ce qui nécessite d'avoir des acteurs italiens doublés aussi.
Oui, un acteur italien, celui qui faisait Bertuccio. Mais qui était un personnage italien dans le scénario. Donc.
Comment c'est concrètement la construction de ces grosses machines-là?
Mais la construction quoi? Artistique ou financière?
Financière d'abord.
Financière, c'est pas moi, j'étais pas producteur à l'époque, donc c'est pas moi. Artistique, c'est moi. Je choisis les acteurs, je choisis la musique, je choisis la lumière, l'équipe technique, je choisis tout. Parce que je considère que le metteur en scène, c'est le pilote qui pilote l'avion. Alors, il y a peut-être un président d'Air France qui décide de trucs, mais quand le mec, il est à son avion, c'est lui qui se plante ou qui se plante pas. Donc, une fois que moi, j'ai pris les commandes de mon avion, on n'intervient plus.
Cette série change le jeu, parce que vous l'avez dit, Gérard Depardieu est là. Qu'est-ce qui se passe sur ce tournage de différent, peut-être?
L'exaltation, le plaisir d'être dans un film extrêmement à la fois sombre et ludique, quoi. Et puis surtout, le bonheur incroyable de découvrir ce que c'est que de tourner avec Gérard Depardieu. C'est extraordinaire.
Alors c'est quoi le bonheur de tourner avec Gérard Depardieu?
D'abord, un immense acteur, bon mais ça c'est un pléonasme, et de le voir attaquer les scènes exactement comme on s'y attend pas, quoi. C'est un acteur à la fois profond, mystérieux, flamboyant, il peut tout faire, c'est un immense acteur.
Vous répétez ou pas avec vos
acteurs? Très peu, on répète très peu, il déteste répéter, je déteste répéter, on fait une prise, tout va bien.
Une prise.
Ah ben oui. Deux prises, il y a un nombre de perches, parce qu'il y a des perchemans qui sont quelquefois malhabiles, mais ou un pointeur qui fait un plan flou. Mais non, avec les acteurs, on fait une prise. S'ils en veulent une deuxième, on leur donne, bien sûr.
Aujourd'hui, ils jouent avec une oreillette, parfois, Gérard.
Mais sûrement, oui. Oui, parce que en vérité, si vous voulez, évidemment, il lit le texte, il le connaît d'une certaine manière. Mais c'est plus simple pour lui de le réinventer, oui. Et il lisait aussi sur des tableaux son texte, mais il a tellement de talent qu'on ne le voit pas quand il lit. C'est pas comme quelqu'un qui lit un prompteur. Non, c'est un génie. On était dans un avion, tous les deux, on allait en Russie, et je dis, mais comment c'est pour toi d'être Gérard Depardieu? Enfin, qu'est-ce que ça représente? Il m'a regardé. Mais de quoi tu parles? Parce que je suis même pas sûr qu'il voit les films, Gérard. Je crois qu'il est tellement peu narcissique qu'il les regarde pas. C'est l'acteur le moins narcissique que je connaisse. Il est libre. C'est ça qui est beau.
Monte Cristo, 4 épisodes.
Vendu dans le monde entier. On m'en parle encore en Chine et partout. Enfin, c'est incroyable.
Et vous faites une progression d'audience?
Bah, hallucinante. On commence à 9 millions, on finit à 15. Enfin, bon.
Qu'est-ce que ça change, ça?
Ça change rien, ça fait plaisir. Ça émeut. Ça change rien, ça veut dire que, par exemple, la chaîne et le producteur voulaient qu'on fasse tout de suite après Les Misérables. Et en troisième, Balzac. Et Gérard et moi, on savait qu'on ferait jamais Balzac en troisième. Et que s'ils voulaient Les Misérables, il fallait qu'ils avalent Balzac avant. Ils ont avalé Balzac. Alors, ils étaient très déçus. On a fait 8 millions sur Balzac. Mais c'est énorme de faire 8 millions sur Balzac. Voilà. Mais ils voulaient que ce soit... Alors, après, on a fait Les Misérables. Mais on leur a imposé de faire Balzac entre deux.
Donc, ça change le rapport de force.
Mais bien sûr. Évidemment.
Balzac. On vous appelait le petit Balzac quand vous étiez petit?
Oui, c'est ma mère. La seule chose de bien qu'elle ait faite.
Qu'est-ce qui vous intéresse? On a parlé de ce que vous regardiez comme film. Votre rapport à la littérature, parce que vous êtes devenue la passeuse de littérature sur le grand écran pour toute une foule de générations, y compris la mienne. J'ai grandi en regardant ces séries.
Quand j'ai fait, par exemple, Les Rois Maudits, il y a une réédition et ça a été terriblement vendu à nouveau. Mais moi, je lisais beaucoup de littérature russe. Je lisais beaucoup Dostoïevski. J'adorais. Quand j'étais très jeune, je lisais aussi... Conan Doyle, que j'adorais. Je lisais Dumas, Hugo. J'aimais beaucoup Stendhal.
Très peu d'adaptations de Stendhal.
Ah ouais.
Cinéma.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait partie de vos désirs, ça, ou pas, hein?
Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas.
Chartreuse de Parme.
Ouais, Chartreuse de Parme, ou Le Rouge et le Noir.
J'aimerais qu'on rentre dans le détail. Balzac, pourquoi donc?
Ah, mais parce que c'est la vie de Balzac qui est extraordinaire, le personnage est incroyable, sa destinée est à la fois flamboyante et horrible. Voilà, parce que Balzac, sa vie est encore plus intéressante, je pense, que son œuvre, pour moi.
C'est intéressant, parce que vous êtes une femme qui dit que le réel vous intéresse moins que la fiction.
Oui, mais la vie de Balzac, c'est pas réel. Sauf la fin qui est horrible. Mais la vie de Balzac, c'est une course effrénée, une fuite. C'est un fugitif. Voilà, c'est ça qui est beau.
Qui manque d'argent toute sa vie.
Bien sûr.
Une relation épistolaire amoureuse avec une femme.
Bah, pas qu'épistolaire, parce qu'en fait, ensuite, finalement, il l'épouse, madame.
L'épouse, mais très tard.
Oui, tardivement. Et il lui demande d'ailleurs si c'est lui qu'elle aime ou si c'est l'écrivain. Et elle lui explique que c'est un peu... inséparables l'un de l'autre. Peut-être que c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai aimé des gens qui étaient des acteurs ou des actrices qui m'ont fasciné, et parce qu'ils étaient aussi acteurs ou actrices. La même personne, exactement, étant chimiste ou astronaute, peut-être que ça me serait pas, j'aurais pas eu aucun intérêt pour cette personne. Je l'aime avec ce qu'il est en tant qu'acteur ou ce qu'elle est en tant qu'actrice, ce qu'elle peut donner d'émotion. Que rien au monde ne peut me donner à moi aussi fort que l'émotion que je ressens quand un acteur me bouleverse.
Donc Gérard Depardieu, il y a cette grande trilogie, Le Comte de Monte Cristo, Balzac, et ensuite Les Misérables. Alors là, Les Misérables, vous vous attaquez à un monument. À ce ouais. moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, je suis très contente de m'attaquer à ce monument et surtout d'avoir le casting que j'ai, parce que ça m'a permis de rencontrer John Malkovich, qui est un être merveilleux, un acteur... incroyable aussi, et c'était très très beau d'avoir ce plateau. J'avais un plateau incroyable, j'avais Gérard, j'avais John, j'avais Clavier, j'avais Virginie Ledoyen, que je viens de retrouver d'ailleurs là il y a 2 mois en Guadeloupe pour un Marlowe 20 ans après. Il y avait Asia Argento, il y avait Jeanne Moreau, il y avait un casting époustouflant.
Mais discutons de ce casting, parce qu'il est très intéressant. Quand vous vous êtes
Charlotte Gainsbourg,
Charlotte Gainsbourg enfantine, et vous faites des choix discutable ou pas, par exemple. Charlotte Gainsbourg, Fantine, vous refusez, par exemple, que, comme dans le roman, elle perde ses dents.
Oui, je refuse qu'elle perde ses dents, mais je la vois quand même en train de se faire arracher. Et je vous dis, j'aime pas le cinéma gore. Et je trouve que l'émotion que donne Charlotte, c'est beaucoup mieux qu'une dent arrachée.
Vous réécrivez certains rôles, par exemple, et c'était un rôle très frappant, je crois que le grand public l'a découvert comme ça. Éponine, c'était Asia Argento.
Oui.
Une actrice qui démarrait, donc la fille de son père, Dario Argento, mais qui était à ses débuts, plus ou moins en France, et à qui vous donnez un rôle, Éponine, amoureuse de Marius, fille des Thénardier.
Je la trouve merveilleuse.
Elle est incroyable dans ce rôle, ouais. Qui est un rôle qui change un petit peu la perspective du personnage par rapport au roman.
Mais oui, mais c'est bien aussi, on peut pas rester... Vous savez que la trahison, c'est la meilleure façon d'adapter. Autrement, on devient scolaire. Et moi, j'ai jamais été scolaire parce que je suis pas allé en classe, vous comprenez ?
Ce travail d'adaptation, vous le regardez comment ?
Ben, je le regarde avec beaucoup d'intérêt. Mais moi, je n'écris pas, je ne sais pas écrire. C'est normal, je ne suis pas allé en classe. Non, je me suis posé la question, je pensais qu'il y avait des gens qui écrivaient beaucoup mieux que moi, donc je préfère les faire écrire. Par exemple, quand j'ai demandé à Fred Vargas de pouvoir l'adapter, j'ai pensé que Emmanuel Carrère était le meilleur adaptateur pour elle. Voilà.
Vous dites souvent, c'est que vous aimez faire des mariages, vous aimez qu'il y ait une alchimie qui prenne.
Et bien sûr.
Donc, en plus, on revient au casting. La question des acteurs ne vaut qu'en fonction des acteurs face à qui ils sont.
Eh oui. Mais vous voyez, par exemple, en ce qui concerne le casting de Monte Cristo, moi, je voulais que Fanny Ardant soit Mercedes. Je suis allée la voir, je lui ai proposé, elle m'a refusé. Je ne lui en ai pas voulu. Et donc, j'ai proposé à Ornella Lamouti, et qui était d'ailleurs merveilleuse dans Mercedes. Et puis, quand j'ai voulu faire Balzac, je suis allée revoir Fanny Ardant et je lui ai dit, je veux que vous soyez Madame Anska. Elle m'a dit « Ok ». Et à ce moment-là, je suis parti en Allemagne avec Jean-Pierre Guérin, chez nos coproducteurs allemands. Et j'ai dit « Voilà, le casting de Balzac, c'est Virnalisi, dans Madame de Berny, c'est Jeanne Moreau, c'est Gérard Depardieu et c'est Fanny Ardant ». Et le coproducteur allemand, qui était Yann Mojito, a dit « Non, elle est. Nous, on met beaucoup d'argent ». Elle est Madame Anska est russe, polonaise. On veut une actrice allemande. Et j'ai dit, moi, j'ai donné mon accord à Fanny Ardant. Ce sera Fanny Ardant ou je ne fais pas le film. Et ça a été Fanny Ardant.
Mais pour revenir à la cuisine interne, quand même, par exemple sur Les Misérables, vous vouliez des choses qu'on n'a pas pu faire. On m'a dit que vous vouliez des éléphants.
Parce qu'à un moment donné, il y en avait, on n'a pas pu financièrement. Bon, ben, je préfère avoir Depardieu plutôt qu'un éléphant. Voilà.
Parce que quand même, l'arrivée au casting de ces grands acteurs...
Ouais.
Change quand même la manière dont les films se financent et dont vous répartissez les choses.
Bien sûr.
Parce qu'on le sait, les acteurs, ces acteurs-là, ont de gros cachets.
Et bien sûr, c'est normal. Et puis, ils ont tout un staff autour d'eux. C'est normal aussi.
Et eux font des efforts ou pas?
Mais bien sûr qu'ils en font. Surtout, ils font l'effort de tourner vite.
Quand vous faites des castings, par exemple, on parle de Balzac, Madame Anska, Fanny Ardant, Depardieu, Balzac, à quel point est-ce que vous avez en tête tous leurs rôles précédents, je reformule.
Mais je les ai tous parce que je suis très cinéphile.
Donc là, on peut rejouer la fille, la femme d'à côté. Vous jouez beaucoup avec les références.
Mais j'aime beaucoup les références. J'ai fait un film pour Canal qui s'appelle Zaïd et qui est pour moi alors vraiment une espèce de copier-coller de La mariée était en noir, d'une certaine manière. Comme quand Isabelle Adjani a refait Nosferatu, qui était vraiment aussi très très proche du film de l'expressionnisme allemand. Donc si vous voulez, là c'était un hommage à La mariée était en noir. Oui, j'aime beaucoup ça.
De Truffaut avec Jeanne Moreau.
Bien sûr. Qui d'ailleurs n'est pas du tout le meilleur film de Jeanne ni de Truffaut, à mon avis.
Voilà. Même si vous en avez une immense affiche.
Oui, parce que j'aime beaucoup cette affiche. Et j'aime beaucoup Truffaut aussi.
On est aussi dans un moment où, quand vous faites les parts d'audience dont vous parlez, vous savez que ça veut dire que quasiment un tiers du pays, des foyers du pays, ont regardé cette fiction.
Mais j'espère, oui. Et je me souviens que j'étais à Rome un soir, pendant que Monte Cristo était diffusé là-bas, et que c'était en septembre, et que les fenêtres étaient ouvertes, les persiennes, etc., et que j'entendais la musique de Monte Cristo dans les rues de Rome, c'était assez bouleversant, oui.
Parlons de la musique. La musique occupe toujours une place très importante dans vos films.
Oui.
On a parlé de La femme rompue, musique de Barbara.
Oui.
incroyable.
Incroyable.
Catherine Lara, qui fait la musique.
Il fait tous les Marlowe. J'ai eu la chance de travailler avec Delru, avec Pierre Janssen, avec Duhamel, qui avait fait une musique tellement extraordinaire pour Pierrot le Fou, justement. Delru, évidemment, Le Mépris, tout ça. Oui.
Bruno Coulet, la musique de
Bruno Coulet, entre autres.
De Monte Cristo, qui reste en tête des années.
Et de La Rivière Espérance.
Et de La Rivière Espérance.
J'ai fait aussi, surtout, La Femme Rompue avec Angelo Badalamenti, qui est vraiment, alors, le musicien de Finch, etc., qui est un musicien extraordinaire. Vraiment, qui, à mon avis, c'est celui qui a le plus le sens de la musique filmique.
Là, on entend des grands noms de la musique dite à l'image. Barbara, c'était pas particulièrement son
non.
métier. Qu'est-ce que vous recherchez?
Eh bien, je cherche une sonorité qui me semble convenir au film que je vais faire.
Et ça, on en discute quand?
Alors, avant. Le musicien, on le voit avant.
On le voit avant le film?
Ben, bien sûr, oui. Pour savoir s'il est d'accord déjà pour faire la musique ou pas. Oui, il faut aller parler avec lui, lui expliquer pourquoi on souhaite que ce soit elle plutôt que quelqu'un d'autre, etc. Voilà.
Et il travaille quand, le musicien?
Ça dépend, ils ont tous des méthodes de travail différentes, mais il y en a qui travaillent pendant le film, il y en a, si on a besoin de musique pendant le tournage, voilà, il y a des maquettes, il y a tout ça, il y a des maquettes. On écoute les maquettes et puis on décide si ça va, ça va pas, le thème, etc. Oui, bien sûr.
Vous tournez avec de la musique en tête ou pas?
Non, ça dépend, enfin, non. Non, non. Mais enfin, je suis très présente au niveau de la musique. Hein. Je sais les endroits où je veux la mettre, je sais le style de musique que je veux. Je suis, on va dire, assez interventionniste au niveau de la musique. Là, je viens de faire justement le dernier Vargas que j'ai fait, qui était la Cançon à la recluse. Je voulais absolument que ce soit Benjamin Biolay qui fasse la musique. Lui, je l'ai laissé totalement libre, parce que je trouve qu'il est très talentueux.
Mais
par exemple, il y a une musicienne anglaise dont j'ai entendu la musique il y a quelques années, je trouve extrêmement talentueuse, qui s'appelle Jocelyn Pook, et je pense que je lui demanderai de faire la musique de Diane de Poitiers. J'ai repéré il y a des années. À l'époque, je pensais pas à Diane de Poitiers, mais maintenant, je pense à cet assemblage.
Au moment où vous préparez ce film-là, vous relisez beaucoup Hugo ou pas du tout?
Pas du tout.
Vous comptez sur quoi alors? Sur l'adaptation de Decoing, mais sur une impression générale?
Oui. Ouais.
Qui vous vient d'où?
Ah, je ne sais pas. C'est assez mystérieux. J'aime bien, je vous dis, une préparation improvisée. Voilà. J'aime pas être dans des carcans. À la fois, les seuls carcans que j'accepte, c'est le plan de travail que je fais toujours moi-même. Les assistants ne m'en font pas mon plan de travail. C'est moi qui le fais. L'ordre de tournage, le temps de tournage, les séquences, assemblage des séquences, etc., les décors et tout ça. Et là, je ne déroge pas, c'est-à-dire je fais jamais d'heures supplémentaires.
Vous pouvez même terminer avant?
Non. Non, 10 minutes avant ou 3 minutes après, enfin bon. Non, parce que si on termine 10 minutes avant, on va pas recommencer une séquence qu'on finira le lendemain. Une séquence, on la commence, on la termine.
Sur les tournages, on dit que vous êtes à la fois extrêmement exigeante, voire dure parfois, sur la manière dont la technique doit se faire oublier.
Absolument. Indispensable. Je signalerai quand même, à moins qu'il soit totalement masochiste, que je travaille avec la même équipe technique depuis 10 ans. Donc il faut croire que ça leur convient. Mais je ne veux pas, comme j'ai vu souvent sur des plateaux où j'étais assistante, parce que, en vérité, je vais très très rarement sur le plateau d'autres metteurs en scène, parce que je trouve que c'est jamais agréable pour le metteur en scène, etc. Donc, j'ai vu assez de plateaux dans ma vie pour savoir à quel point la technique peut être envahissante si elle le décide. Il n'en est pas question.
Je vous ai dit, on a parlé de vos tournages, on a parlé de quand vous filmez, mais on n'a pas parlé très concrètement de ce qui se passe sur un tournage. Est-ce que vous avez des superstitions? Je sais que vous en avez.
Pas d'œillet, pas de costume vert, pas passer sous une échelle, voilà. Pas à la cantine passer le sel de la main à la main, enfin voilà, du truc d'une banalité.
Pas numéro 13, extrême. Je crois.
Hein?
Pas numéro 13?
Ah, le numéro 13, oui, j'ai pas de numéro 13, j'ai le 12 bis, oui. Comme dans les avions, voilà, oui. Je suis un peu superstitieuse, oui. Vous savez, Napolitain, Séfarade, Tétouan, tout ça, l'Orient. Ça fait que, oui, je suis assez superstitieuse. Je me dis, par exemple, que si je fais un truc un jour qui se passe bien et que je suis passé par telle rue, je vais essayer de repasser par telle rue, voilà. Truc complètement con, quoi.
Toujours sur le tournage, on craint votre autorité et en même temps, on vante votre précision. Vous utilisez quoi comme objectif, comme terme de plan? Est-ce que vous avez des choses qui sont invariables?
Non, 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 mais je ne fais jamais de zoom, ça c'est invariable. Et je change de focale, j'ai à chaque fois des focales fixes, qui sont des focales de caméra de cinéma, pour que la qualité de l'image et que la focale corresponde exactement à ce que je souhaite au moment où je pense que cette focale est nécessaire pour ce plan ou un autre plan. Voilà, donc je suis assez précise sur le choix des focales, oui, sur les mouvements de caméra, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose de très agréable pour moi sur un tournage, c'est que c'est vraiment le lieu où je me sens chez moi. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis sur un plateau, je suis à 100% chez moi et 100% avec moi.
Même ici, même chez vous.
Mais non, parce que là, je pense à autre chose, je pense à rendez-vous tout à l'heure, je pense que vous allez venir, je pense que, voilà, et que va falloir que je m'occupe de mon plan de travail. Enfin, je pense à la vie, si vous voulez, au quotidien. Bon, il faut que j'aille chez le dentiste si j'ai mal aux dents, enfin bon, bref. En revanche, quand je suis sur un plateau, je peux avoir mal aux dents, je peux avoir des problèmes personnels, métaphysiques, ou des problèmes matériels, ou des problèmes d'argent, ou que sais-je, des problèmes quotidiens, de la vie quotidienne, que par ailleurs je n'aime pas, eh bien, au moment où je rentre sur mon plateau, tout s'est effacé. C'est extraordinaire. Donc c'est le lieu où je me sens le mieux.
Est-ce que, comme dans la vie, dans les films que vous faites, vous avez l'impression qu'il y a un style d'ailleurs ? Lyrique, mélo, et en même temps pas du tout.
Mais pas tellement mélo, plutôt lyrique. Moi j'aime bien en tant que spectatrice le mélo quand il est très très bien fait. Mais en revanche, dans mes films, je pense qu'il y a, j'ai assez de pudeur et que j'ai pas envie surtout d'une musique qui souligne les émotions, etc. Et ça, d'ailleurs, je dois dire, je le dois surtout à ma rencontre. Quand je vous dis que les rencontres importantes sont modifiantes, je le dois surtout à ma rencontre avec Jeanne Moreau, parce que elle m'a dit, d'ailleurs, c'est elle qui a trouvé le nom de ma société en disant, vous êtes passionnée, appelez votre société Passion Film. Mais elle m'a dit, vous êtes trop sentimentale et vous savez, il faut que le cœur soit chaud et la parole froide. Et je l'ai écoutée. Elle avait raison. Et j'ai gommé beaucoup, beaucoup de musique, qui étaient toujours des musiques que je trouve très belles, parce que j'ai toujours eu la chance de travailler avec des grands musiciens et des grands compositeurs de musique de film. Mais je mets un minimum de musique, quoi. Et surtout pas pléonasmique. Voilà. Si on est dans l'émotion, je vais pas mettre une musique émouvante ou non. Et donc ça, c'est grâce à Jeanne, oui, parce qu'elle avait un regard très drastique sur notre métier.
Demain, on parlera d'une actrice, Jeanne Moreau, qui a beaucoup marqué votre filmographie, votre vie, avec qui vous avez fait plusieurs paris très audacieux.
Bien sûr.
À demain, José Dayan.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec José Dayan. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.